Nouvelle story d'entrepreneur avec aujourd'hui dans les studios Jonathan de Ring Twice.
Aïe, 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 merci.
Ah, Jonathan, t'es quand même une des stars de l'entrepreneuriat belge et bruxellois. Non, si, je peux le dire. Parce qu'on t'a connu. Alors, pour ceux qui connaissent pas Ring Twice aujourd'hui, avant Ring Twice, c'était Lys Minute. Ouais. Et c'est vrai que tu fais partie. Quoi, ton aventure, elle a démarré à combien d'années?
Il y a 11 ans, là.
Il y a 11 ans. Et tu fais partie de ces premiers visages au moment où finalement l'entrepreneuriat commençait à être mis en avant et sous les projecteurs. Et tu fais partie de ces premières startups qui sont très vite arrivés sur le marché avec de grandes ambitions.
Oui, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Mais bon, c'est ce qui fait... Je pense d'un côté, c'est un peu plus compliqué. D'un côté, c'est plus simple aussi pour se faire une place à ce moment-là.
Alors, Ring Twice, aujourd'hui, c'est quoi?
Alors, Ring Twice, c'est une plateforme de mise en relation qui te permet de trouver des gens dans ton voisinage qui sont prêts à te donner un coup de main pour plein de petits services du style de la plomberie, monter des meubles Ikea, tondre la pelouse, garder les chiens pendant les vacances, babysitting. Donc vraiment, tous les petits besoins du quotidien. Et on te met en relation avec les bons voisins, quoi.
Alors, dans un instant, on va creuser, on va revenir un peu sur l'évolution, le parcours. Si je t'ai invité aussi aujourd'hui, c'est parce que dans tous les projets qu'on va recevoir, très peu ont ton parcours en termes aussi de levée de fonds. Et je crois que la levée de fonds, c'est quelque chose que beaucoup cherchent à faire. Et c'est quelque chose qui se prépare. T'en as fait 3, je pense, des levées de fonds, c'est ça?
Ouais, j'en ai fait 3, oui.
Il y a des erreurs qui ont été commises, tu vas nous les partager. Ouais. Donc, vous restez bien avec nous, on va parler argent. Mais d'abord, on va s'intéresser à toi, toi en tant qu'entrepreneur. Quel est ton parcours, tes études à la base?
Alors, moi, j'ai fait ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve, et puis un master en entrepreneuriat. Et donc ça s'appelle INEO maintenant, et ça reprend les différentes facs de l'UNIF, et donc tu peux avoir fait gestion ou droit ou éducation physique ou ingénieur civil, ça reprend vraiment tout, et le but c'est de créer un groupe avec des compétences différentes et de lancer, développer un projet quoi.
Mais donc dès le départ, toi, c'était clair dans ta tête, tu voulais être indépendant, créer ta boîte?
Ouais, depuis que je suis tout petit.
Ouais. Et ça vient de quoi? Ça vient de ta famille? Tes parents sont indépendants, entrepreneurs?
Ouais. Toute ma famille est indépendante et dans des domaines très variés. Ça va de ma mère et mon beau-père géraient un garage, une concession automobile. Mon frère gère des carwashs. Mon père est courtier en assurance, donc toujours indépendant, quoi.
Fallait que tu suives le mouvement, quoi. T'as été biberonné finalement à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Ton premier projet entrepreneurial, c'était quoi finalement?
La vente de muguet sur le bord de la route. Mais sans rire, on a commencé comme ça, aller chercher du muguet dans les bois et vendre. Et puis quand on a arrêté, on avait 11 stands, je pense, entre Bruxelles et Brabant.
Dingue. Ah, ouais. Donc toi, finalement, et là, c'était à quel âge que tu faisais ça?
Ouais, j'ai commencé peut-être devant la porte à 10 ans, quoi. Mais tu
commences à développer finalement tes compétences d'indépendant, d'entrepreneur. Et finalement, voilà, après, quand tu as eu l'opportunité de pouvoir te lancer dans le grand bain du monde du travail, tu as créé ta première start-up qui est alors Lys Minute à ce moment-là. C'est ta première start-up?
Ouais, première start-up, c'était projet d'études. Donc, du coup, dans le cadre des études, il fallait développer un projet. Nous, on a continué après les études. Et donc, première réelle expérience professionnelle aussi, quoi, du coup.
Mais c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à ces organismes, ces associations comme les mini-entreprises, les jeunes entreprises qui, dès le secondaire, nous poussent à créer notre propre projet. Et alors, je pense, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'au niveau secondaire, c'est YEP. C'est une association qui permet justement à des étudiants du secondaire et des hautes écoles de créer un premier projet. Et on le dit souvent, parce que j'ai eu la chance d'être coordinateur, de dire... C'est dans le cadre des études, mais potentiellement, vous pouvez prolonger ce projet par la suite. Et toi, aujourd'hui, c'est devenu finalement c'est devenu ton bébé qui anime ton quotidien depuis plus de 10 ans maintenant. Avant de revenir encore une fois sur ce projet, je veux qu'on creuse encore ton parcours et le début. Trouver une idée, c'est pas simple. C'est souvent le grand défi. Si on veut se lancer, c'est très bien. J'ai fait des études, je suis armé, mais j'ai pas l'idée. Comment t'es venu l'idée de Lys Minute, de Ring Twice maintenant?
Alors, effectivement, c'est pas simple. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était un groupe où on avait dit d'office, on n'a pas envie de le faire juste dans le cadre des études. Okay. Donc, ça nous intéressait de. Enfin, oui, c'était dans le cadre, il fallait faire un mémoire, machin. Mais il fallait que c'était un projet qui nous motive tous pour pouvoir se lancer. Et donc, en fait, on était les derniers de l'année à trouver le projet qui nous motivait. Et comment on a trouvé celui-là, c'était d'abord on a essayé un autre, dans le cas, et puis on a fait des concours, on l'a présenté à des gens et finalement on a eu un retour du marché qui était négatif, donc on a décidé de changer. Et celui-là on l'a trouvé parce qu'on a regardé ce qui se faisait dans le monde en fait. On s'est dit on va pas essayer d'inventer quelque chose de nouveau, il y a des choses qui existent qui sont très bien faites et on est tombé sur un projet, une belle boîte qui s'appelle TaskRabbit aux États-Unis. Et qui fait ce qu'on fait maintenant. Et on s'en est inspiré, on s'est dit il y a un énorme potentiel sur le marché belge dans un premier temps, européen ensuite. Et il y avait du boulot aussi pour tout le monde parce qu'il y avait un étudiant en droit dans notre équipe, il y avait un étudiant en informatique, etc. Donc voilà.
C'est vrai que c'est une des manières de trouver une idée, c'est de s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Et il y a plein de concepts comme ça qui sont importés Et finalement, quand vous n'avez pas d'idée, ben, voyagez un peu, allez checker ce qui se fait et puis développer des choses ici en Belgique. Ring Twice, une aventure qui est folle, qui est dingue. Donc, c'est combien d'années maintenant, plus ou moins 10 ans?
Ouais, 11 ans là, qu'on a lancé la boîte.
Alors, il s'est passé plein de choses. Maintenant, on va creuser, on va rentrer dans le dos vraiment dans lequel j'ai envie de creuser, celui de la levée de fonds.
Ouais.
Parce que de nouveau, on en a parlé avec plein d'entrepreneurs qui sont venus ici, il y a toujours cette question du financement. Et encore plus, je trouve, quand on veut créer une plateforme, parce qu'une plateforme, ça coûte de l'argent, une belle plateforme. Comment vous avez lancé? Comment tu as trouvé les premiers euros pour créer ce projet?
Alors, les premiers euros, nous, on a fait l'apport minimum pour créer une société, ouais, à 4. On était 4 associés. Et donc, on a commencé la société avec 20 000 euros. Et là, chacun s'est débrouillé pour trouver l'argent dans son entourage, un peu ce qu'on appelle les family,
friends,
and fools.
And family,
voilà,
ouais,
exactement. Mais du coup, c'était nous les 4 seuls associés, actionnaires. Donc
vous démarrez avec 20 000 euros à ce moment-là. Et ces 20 000 euros vous permettent de créer votre prototype, votre MVP, la V1 finalement de Lease Minute, devenue Ring Twice maintenant?
Ouais, alors. Oui et non, parce qu'en fait, on avait déjà la V1, elle a été créée dans le cadre du mémoire déjà, donc notre IT.
Ah, vous avez été jusque là dans le cadre du mémoire.
Ouais.
Dinguerie.
Donc, on avait vraiment une plateforme fonctionnelle. Après, quand on la regarde aujourd'hui, ça fait mal aux yeux, hein, mais c'était comme ça qu'on avait commencé. Ça nous a plutôt permis d'aller faire les premières actions pour aller justement ramener des utilisateurs dessus et avoir un premier. Une vraie première confrontation au marché. Et puis, on a attendu 18 mois avant de faire la première levée de fonds.
Ok, donc tu lances dans le cadre de ton mémoire, la plateforme est lancée, 18 mois. Pourquoi 18 mois pour faire une levée de fonds? Parce qu'au début, ça tournait, c'était pas nécessaire, ou alors c'était stratégique de se dire on va attendre d'avoir suffisamment de traction, donc de preuve que voilà, il y a des clients, on fait du chiffre, donc ta valeur augmente pour faire une plus grosse levée de fonds.
J'aurais bien voulu avoir cette maturité-là à l'époque, mais c'était pas le cas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, faut dire, à l'époque, il y avait pas énormément de startups, etc., qui se lançaient, mais tout ce qu'on entendait, que ce soit, surtout à l'étranger, etc., c'est la levée de fonds était un peu la next step, quoi.
Ouais.
Et dans un business comme le nôtre, je pense que la levée de fonds est, dans beaucoup de cas, nécessaire, parce que tu dois atteindre une certaine masse critique, il faut construire ta base de données. Ça sert à rien d'avoir deux utilisateurs, un client, un prestataire. Il faut vraiment avoir du volume pour avoir des effets de réseau. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, probablement, je dirais, trop tôt, de lever des fonds avec des chiffres où on n'avait quasiment pas de data, juste un chouette projet, une chouette équipe et pas mal d'ambition.
Pourquoi avec le recul, tu dis que c'était trop tôt?
Parce que justement, on n'avait pas suffisamment de connaissances du marché, on n'avait pas suffisamment de chiffres intéressants que pour pouvoir. Parce que la première levée, on a levé 200 000 euros. C'est, alors, par rapport à certaines boîtes, ça peut sembler peu, mais ça reste énormément d'argent, quoi. Et donc, il faut quand même qu'on puisse prouver un minimum. Et à ce moment-là, on n'était pas prêt. Quand on avait des questions, en fait, comment ça se passe? C'est le premier investisseur, tu vas le voir, tu sonnes à la porte, et puis il te pose des questions, tu sais répondre aux questions très classiques, et puis plus il va dans le dur, plus tu dis je vais revenir vers vous, et donc tu travailles un peu, tu reviens vers lui, et puis après tu vas voir un autre, t'es mieux préparé, etc. Et donc tu fais un peu tes armes au fur et à mesure.
Ok, donc trop tôt, parce que tu penses que si t'avais été mieux armé, t'aurais quoi? T'aurais donné peut-être moins, vendu plus
J'aurais donné moins et j'aurais été plus vite.
Ok, ouais, c'est ça.
Ouais. Et en fait, plus vite, parce que finalement, ça nous a pris plus d'un an finalement, parce qu'on a essayé trop tôt. Il y a un moment, on a vu quelqu'un qui était super pertinent, qui nous a dit serrer la ceinture le plus longtemps possible pour arriver, justement, comme tu le disais juste avant, dans une situation où on est plus en position de force. Et ça, on avait pas vraiment. Donc on a dit ok, on se remet à fond, ça prend du temps, c'est un des focus, ça prend du temps. Et donc on s'est mis à fond sur le business de nouveau pour relancer après la machine, pour lever les fonds.
Ouais, c'est vrai qu'on, ce qu'on dit pas souvent, c'est qu'une levée de fonds, effectivement, ça prend du temps et ça prend surtout de l'énergie. Et donc on est focus sur cette levée de fonds et on en oublie parfois aussi le développement de son propre business aussi. Ouais. On est moins dedans et donc c'est pas bon non plus. Mais donc que les gens aient bien conscience qu'aujourd'hui une levée de fonds, on dit plus ou moins 6 mois,
six
c'est
mois,
ça
ouais,
six mois.
Si on a les chiffres, etc. Après, la deuxième nous a pris littéralement 2 mois.
Okay.
Donc ça dépend de nouveau à quel point on est prêt, à quel point on a construit le réseau. Et quand je dis 2 mois, c'est parce qu'à partir du moment où on a dit ok, on lève des fonds et puis on lève l'argent sur le compte, ça a pris 2 mois. Mais parce que pendant toute la période entre les deux, je continue à avoir un peu à garder des relations avec des investisseurs, à les tenir un peu au courant, etc. Quoi. Et donc là, tu peux aller plus vite. Mais quand tu commences from scratch et que tu n'as pas de réseau, que tu n'as rien, il faut compter au moins 6 mois.
Quels sont les conseils que tu auras donné à quelqu'un qui cherche aujourd'hui à financer son projet par la levée de fonds?
de bien se poser la question s'il a vraiment besoin de fonds.
Ouais.
Ça a été un peu à la mode, etc. Ouais. Mais si c'est pas nécessaire, je pense, nous, on a beaucoup de chance avec nos actionnaires. On est très contents, etc. Mais de un, c'est pas toujours le cas. Et de deux, ça reste, même s'ils sont très chouettes, ça reste... T'es plus le seul maître à bord. T'as plus le contrôle à 100% de la société. Ouais. Et donc les décisions, tu dois aussi les faire valider pour certaines choses, etc. Donc, il faut se poser la question de si c'est vraiment nécessaire. Moi, je pense que le meilleur argent, il est à trouver chez les clients. Ouais. Après, si c'est vraiment pour un business où c'est vraiment obligatoire, alors je dirais qu'il faut bien se préparer, bien connaître ses chiffres, son marché. Et on n'est plus dans une phase où on vend juste une idée, on se dit « Ok, c'est une chouette équipe, on croit en vous ». Il faut quand même montrer que le business tient la route. Quoi.
Et encore plus, j'imagine, après le Covid, où les investisseurs aujourd'hui sont là, parce qu'il y a des investisseurs, il y a de l'argent à aller chercher.
Ouais.
C'est aussi un message qu'on peut faire passer, c'est que beaucoup de gens se disent « Ouais, c'est la crise », surtout quand on lit un peu les médias, on se dit « Ouais, tout va mal », etc. Mais l'argent, il y en a.
Ouais, il y en a beaucoup en Belgique.
Et il y a pas mal de gens qui recherchent à investir dans des startups, sauf que maintenant, ils sont peut-être un peu plus prudents, ils attendent un peu plus que simplement un mec motivé, qui a la rage, la dalle, comme dirait un certain investisseur célèbre. Est-ce que, alors tu dis j'ai des bons associés, tu as fait 3 levées de fonds, dès le départ tu as très vite trouvé les bons associés, c'est quoi un bon associé finalement?
Alors je dirais oui et non, il y en a encore un notre premier investisseur qui est encore là, il y en a un autre qui n'est plus là, qui a été racheté par d'autres actionnaires entre temps, et je dirais qu'il était bien pour le stade où on en était à l'époque.
Okay.
Donc il faut se dire aussi que même, c'est pareil pour l'équipe, hein, les employés, etc. Les bonnes personnes au jour 1 n'est peut-être pas la bonne personne au jour 2. Et ça vaut pour moi aussi. Le fait d'amener un business de 0 à 1, c'est pas la même chose que de l'amener de 1 à 100.
Ouais.
Et donc il faut évoluer constamment. Ton associé, ton actionnaire, il n'est pas là pour évoluer, grandir avec toi. Ça dépend un petit peu. Et généralement, ils ont un horizon de temps. Je dirais qu'ils tournent un peu aux alentours de 5 ans. Et après, leur objectif est de pouvoir faire fructifier leur investissement. Et après, tu rentres avec d'autres types d'investisseurs si tu en as encore besoin à nouveau.
Et ce n'est pas qu'une question d'argent aussi. Est-ce que tu as cherché aussi d'avoir un investisseur qui a été aussi complémentaire en termes de réseau, en termes de compétences?
Ouais, chercher, oui. À l'époque, je dirais que notre première levée de fonds, on a pris des actionnaires. Bah, à un moment, tu dois d'office aller commencer avec ce qu'on appelle tier 1, c'est le top que tu peux aller chercher, qui va t'offrir le plus de valeur. Effectivement, on dit qu'il faut chercher de la valeur qui n'est pas uniquement financière. Après, il ne faut pas être trop idéologiste non plus. Tu te dis, voilà, ça dépend ce que tu peux rechercher. Il y a des investisseurs, par exemple, plutôt institutionnels, etc., où l'apport est purement financier, mais où tu en as besoin pour faire grandir ton business aussi.
Il y a une chouette émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» sur M6 et qui est disponible aussi. Il y a des épisodes sur YouTube qu'on vous invite à aller voir parce que c'est que des masterclass et des entrepreneurs qui se retrouvent face à des investisseurs. Et c'est l'occasion de voir finalement quelles sont les questions qui sont posées, comment répondre, comment préparer son pitch. Donc ça aussi, on vous invite vraiment, je vais mettre le lien en commentaire de cette vidéo sur YouTube, allez voir cette émission, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est une vraie masterclass. Tu la regardes un peu aussi?
Ouais, je regarde un peu, surtout des extraits sur
TikTok, c'est vrai que c'est très lourd, il y a des bons investisseurs.
C'est clair.
Ok, donc t'as ta levée de fonds. Je voudrais qu'on réfléchisse aussi deux secondes, enfin qu'on parle deux secondes du changement de nom.
Ouais.
Pourquoi c'est arrivé et à quel moment? Pourquoi pour vous c'était important de le faire?
Alors ça faisait longtemps qu'on en parlait déjà, de changer le nom.
Ouais.
Le nom, il faut dire, on était des students autour d'une table en n'imaginant pas tout ce qui allait arriver avec Ring Twice par la suite. Et donc ça venait, on l'a joué à Mario Kart, le choix du nom. Et puis c'est notre CTO qui a gagné évidemment et qui a pu choisir celui-là. Mais ça venait de se débarrasser de sa to-do list en une minute. Ce qui correspondait très bien à ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Après, il y avait beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut l'écrire avec un E à la fin, il n'y en avait pas, et donc les gens le cherchaient autrement, ou ils appelaient last minute, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et en fait, c'était plus en adéquation avec l'image qu'on voulait donner à partir d'un certain moment, qui nous, on n'est pas là pour dire au client c'est bon, tu vas te débarrasser de tes corvées et tu vas bien trouver quelqu'un qui va le faire à ta place. Nous, on est là pour permettre de faire en sorte de trouver des gens qui ont des talents dans le voisinage et qui ont envie de le partager, mais qui ne sont pas inférieurs au client. Ils sont sur un pied d'égalité. Et donc, c'est l'aspect de la rencontre entre le client et le prestataire qui sont le plus important. Et de créer une relation long terme vis-à-vis de la plateforme, mais aussi entre les gens. Et Last Minute, en fait, ça donnait une vision très, très ponctuelle. Je me débarrasse de mes trucs et puis j'y pense plus.
Et en même temps, ça prend du temps d'être connu. Ça coûte de l'argent aussi d'imposer une marque. Donc à ce moment-là, il y a aussi ce risque, et vous l'avez, j'imagine, anticipé et calculé, mais ce risque, et encore, on l'a expérimenté ici quand tu es rentré dans le studio, ouais. Il y avait un autre entrepreneur juste avant toi, ben, ce qu'il a marqué, ce qu'il a retenu, c'était les 6 minutes. Il n'avait pas encore Ring Twice. C'est dur, finalement, de refaire un rebranding.
Alors, c'est dur, mais on était peu préoccupé par l'impact que ça allait avoir sur nos utilisateurs existants, dans le sens où là où on en était au moment où on a fait le changement de nom, c'était un grain de sable par rapport à où est-ce qu'on veut être dans le futur. Mmh. Et donc, on se dit, OK, les gens qui connaissent le nom de 10 minutes, il y a peut-être X milliers, où on avait peut-être 400 000 personnes, ce qui est énorme, hein, mais inscrits, ça ne veut pas dire qu'ils se connaissent tous le nom, etc. Ouais. Par rapport à nos ambitions futures, ça n'était pas le plus important. Par contre, un aspect très important pour nous, c'est le référencement sur Google. Mmh. Et là, c'est clairement pénalisant quand tu refais un rebranding. Ouais. Tu dois tout... c'est assez complexe. Et donc, on a choisi le timing aussi en fonction de ça, parce qu'on a une certaine saisonnalité dans le business. Et tu ne fais pas ça comme ça sur un coup de tête, quoi.
On va parler dans un instant aussi des difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un business tel qu'une plateforme de mise en relation. Mais justement, tu parles de référencement sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires de services qui nous promettent monts et merveilles. Toi, aujourd'hui, avec ton expérience et le recul, comment tu as géré ton référencement? Comment tu le gères au quotidien? Tu mets beaucoup d'argent dans le référencement payant?
Alors, c'est relatif, mais non. Je dirais globalement, pas énormément. Après... Allez, on peut dire des chiffres, c'est pas très grave, mais on a quand même un budget aujourd'hui qui est aux alentours de 100 000 euros par an.
100 000 euros pour le référencement payant et naturel.
Non, au référencement payant. Okay. Alors naturel, on a une personne à temps plein qui s'occupe du SEO en interne.
Et comment vous travaillez ce SEO avec des articles, avec du contenu, avec
Ouais, il y a beaucoup d'aspects. En gros, le SEO, sans rentrer dans le trop technique, mais t'as effectivement une partie contenu, t'as une partie technique. Vraiment, il faut que la page soit optimisée pour le mobile, qu'elle aille vite, etc. T'as une partie qu'est-ce que tu as encore d'autre? Tu as la partie UX, donc le fait que ça convertisse bien pour l'utilisateur. Si ton utilisateur il vient et puis que dans 90% des cas il part, bah Google se dit OK, c'est que c'est pas le bon contenu. Faut penser que Google je dis Google parce que c'est majoritairement Google, mais son objectif c'est de donner le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Et donc si ton contenu que tu leur montres quand tu tapes le mot-clé plombier XL et qui reste sur RingTwice et qui commande sur RingTwice et qui voilà, c'est ça qui va, il va se dire OK, c'est bon, donc je vais le référencer plus haut, quoi.
Aujourd'hui, ta communication et ton marketing, il est principalement centré sur ça, sur le travail du référencement.
Ouais, 50% de notre acquisition, c'est le référencement gratuit et ça représente des milliers de personnes par mois, hein. C'est énorme, quoi. Donc
allez voir aussi l'interview de Florian de Helocos, qui est un petit jeune génie qui s'est lancé justement dans le référencement naturel. Avec un focus juste sur le référencement naturel. Donc, pas forcément le référencement payant. Et il y a son interview et aller voir ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Ok, c'était une petite parenthèse. T'as enchaîné donc les levées de fonds, t'en as fait 3.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens de ça? De fait d'avoir fait plusieurs levées de fonds. Pourquoi c'était nécessaire d'à chaque fois refaire des levées de fonds?
Alors, je pense pas qu'on les ait toujours faites pour les bonnes raisons. Okay. Donc, par exemple, la première. Est-ce que c'est une bonne raison ou pas? Je pense que oui, mais on aurait peut-être dû se focaliser sur autre chose. Mais on s'est pas rémunéré pendant les 18 premiers mois. Okay. Avec 20 000 euros pour la société, tu as 4 associés qui bossent à temps plein, tu sais pas pendant 18 mois, tu sais rien faire et tu le mets dans la société. On avait la chance que c'était à la sortie des études, les 3/4 étaient encore chez les parents, etc. Donc on a pu le faire, mais à un moment, tu pouvais pas continuer. D'ailleurs, on avait dit, après 12 mois, on arrête. Et puis on était à ça de signer, donc puis ça s'est pas fait, mais t'étais de nouveau à ça de signer, donc tu reportes un peu parce que tu y crois toujours et que les entrepreneurs c'est éternel optimiste, donc pas le choix. Et donc voilà, et à partir de ce moment-là, on a pu commencer à se rémunérer. Donc c'était une raison qui était
donc première levée de fonds, c'est pour principalement enfin vous rémunérer, quoi.
Alors non, l'objectif ne peut jamais être juste ça, parce que quand on lève des fonds, il faut se dire c'est qu'on achète du temps. Il faut dire aux investisseurs, en fait, avec vous, sans vous, on va le faire. Atteindre les 10 millions, on va le faire. Mais ça va nous prendre 50 ans sans vous, ça va nous prendre 2 ans avec vous, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, si c'est juste pour dire on va faire la même chose, mais maintenant on va commencer à se payer, ils vont dire t'es gentil, mais fais-le tout seul et prends 50 ans, quoi. Il y a eu ça. Après, un élément qui m'a fort marqué, moi, c'était la dernière levée de fonds qu'on a faite en 2017, mai 2017. Donc, ça remonte quand même à longtemps, à un petit temps. Et en fait, nos actionnaires qui sont rentrés à ce moment-là, c'était clairement des gens avec beaucoup d'expérience dans la tech, fondateurs de VP, vente exclusive qui a été repris par VP, et qui connaissent la tech, qui sont des gens top et avec une bonne expérience. Donc là, on parlait de l'aspect financier et du reste. Et on est rentré dans cette salle de réunion. Au début, on s'est dit, bon, est-ce qu'ils vont vraiment savoir un petit peu nous aider? On est ressorti de là en disant, il faut qu'on bosse avec eux, quoi. Ouais. Et on a retravaillé un peu notre plan pour que ça corresponde, etc. Et eux nous ont dit, on a fait une première expérience où on essayait de se développer à l'international à ce moment-là. Ils ont dit, j'adore l'équipe, j'adore le projet, etc. Je pense que je suis convaincu du marché, mais je crois pas dans votre stratégie de développement.
Okay.
Et parce que ce qu'on faisait, c'était, on dépensait sur Google, mais ça nous rapportait moins que ce que ça nous coûtait. Et donc, c'était bien la croissance. Mais eux, déjà en 2017, nous disaient la croissance, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Ouais.
Et c'est, nous, on a cette philosophie-là depuis longtemps. Et donc, on a beaucoup adhéré au message. Donc, on a dit, OK, nous, on va adapter un peu notre plan parce qu'on a envie de travailler avec des gens comme ça. Ce qui fait qu'en 2019, on a pu atteindre la rentabilité. Chose qu'aujourd'hui, tout le monde parle de, c'est important de regarder les bidets à la rentabilité, etc. Alors qu'avant, c'était juste la croissance. Ouais. Nous, grâce à nos actionnaires, déjà il y a quelques années, on a pu mettre le focus là-dessus, mm-hmm. ce qui fait qu'on a réussi à traverser des périodes comme le Covid, etc., que d'autres n'ont malheureusement pas pu traverser.
C'est dingue parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs sur RingTwice?
600 000.
Oui, ça, c'est énorme.
Ouais, 600 000 en Belgique. Ouais.
Ça fait un chiffre d'affaires de combien, ça?
Ça fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est 7 millions d'euros d'argent qui passe via la plateforme. Quoi. Donc, le montant, en fait, ouais, quand tu payes ton jardinier, ça passe via la plateforme, mais ça, c'est pas notre chiffre d'affaires. Mm-hmm. Donc, c'est 7 millions d'euros de volume et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
On va parler du développement futur de RingTwice dans un instant. Petite parenthèse maintenant sur ce business qui est la création d'une plateforme de mise en relation. C'est vrai que j'ai fait pas mal de concours, je vais souvent aussi écouter des pitchs d'entrepreneurs et la plateforme de mise en relation, c'est souvent un business qui revient, un modèle qui revient. Mais c'est un vrai défi aussi, parce que tu ouais. dois effectivement avoir des gens d'un côté pour avoir les gens de l'autre et inversement, tu vois. Quels sont finalement les conseils que tu pourrais donner sur ce business-là?
C'est toujours plus simple de trouver des gens qui sont prêts à gagner de l'argent que des gens qui sont prêts à en dépenser.
Okay.
Au début, on pensait qu'on allait... Tout le monde avait besoin d'aide et qu'en fait, c'était dur de trouver des prestataires. C'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, il y a 0 euros qui sont dépensés en acquisition de prestataires. Le vrai challenge, c'est de trouver les clients. De bien se rendre compte de garder cet équilibre entre l'offre et la demande. Donc, on fait beaucoup de choses à beaucoup d'endroits. J'aurais tendance à dire, si on peut se focaliser, c'est plus simple dans un premier temps. Nous, on doit gérer si tu veux trouver un plombier à Excel, mais si tu veux trouver un magicien à Arlon, quoi.
Ouais. Donc là, avec le recul, peut-être se dire démarrer sur une plus petite localité, être fort sur une plus petite localité, et peut-être même aussi sur là, c'est vrai que tu parlais de plombier, magicien, mais donc peut-être que te limiter à être le leader sur un seul secteur plutôt que vouloir attaquer tous les secteurs.
C'est plus simple. Après, nous, on a fait le choix d'être dans le multiservice pour une autre raison qui est le cross-selling parce que ça te permet de dire j'attire quelqu'un qui vient trouver son plombier, mais après, je lui dis il y a un prof de piano qui habite à 600 mètres de chez toi, il y a un babysitter qui habite juste là aussi. Et ça nous permet d'avoir une certaine récurrence et donc une meilleure valeur pour nos utilisateurs. Il faut qu'il y ait un intérêt certain pour le faire dans tout en même temps. Il faut que les choses soient liées et que tu touches la même cible. Si c'est toucher différentes cibles à différents endroits tout le temps, c'est compliqué.
Un des vrais défis aussi dans ce type de plateforme-là, c'est le business model. Parce qu'il y a différents modèles. On peut prendre une commission là, on peut faire payer un abonnement. Vous avez pivoté plusieurs fois, non, de votre business model?
Ouais, je sais plus dire combien de fois, mais ouais. La dernière fois, c'était il y a 18 mois, là. Donc malgré, après 10 ans d'activité, on a encore changé le modèle, quoi.
Et comment on fait pour trouver le bon business model?
Le plus important, c'est d'être à l'écoute de l'utilisateur.
Ouais.
Nous, on était le dernier modèle qu'on a fait. On était dans un modèle d'abonnement pour le client. Donc, le client, pour pouvoir sélectionner un prestataire, devait être abonné à la plateforme et il prenait un abonnement qui était soit mensuel, trimestriel ou annuel. Et ce qui nous a permis vraiment, d'un point de vue rentabilité, pour nous, c'était super intéressant. Mais ce qui créait beaucoup de frustration pour certains utilisateurs qui n'étaient pas prêts à prendre un abonnement parce qu'ils avaient dans leur tête à ce moment-là, quand ils viennent chercher un plombier, ils ne pensent pas encore qu'ils vont trouver aussi leur jardinier, etc. Et donc, c'était un frein, ce qui fait que le prestataire était moins... Il y en a qui disaient juste, alors, je ne prends pas le prestataire. Ouais. Et donc, le prestataire était moins sélectionné. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle le NPS, donc c'est le Net Promoter Score. Tu demandes à tes utilisateurs à quel point ils seraient enclins à recommander ta plateforme. Mm-hmm. C'est un peu, on reçoit toujours ça, Deliveroo, etc. Ah, ouais. C'est un peu embêtant parfois quand tu le reçois souvent, mais pour le business, ça a une valeur incroyable, ouais. Parce que ça te dit, tiens, en fait, est-ce que les gens vont en parler positivement ou négativement ou pas du tout, en gros. Et surtout, le plus intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es un détracteur ? Pourquoi tu es un promoteur ? Parce que c'est là que tu vas te dire, en fait, ça, c'est les points de frustration principaux de la boîte, enfin, des utilisateurs. Et nous, c'est comme ça qu'on a fait notre stratégie de l'année dernière. C'est-à-dire, OK, les points principaux, les frustrations principales des utilisateurs, c'est celle-là. Il faut qu'on les tacle, quoi.
Et aujourd'hui, le business model de RingTwice, c'est quoi ?
Alors, le client a le choix, c'est un modèle hybride, en fait. Quand tu quand t'as le prestataire qui se propose, par exemple, il va dire, OK, moi, je travaille pour 20 euros de l'heure pour faire pour jardinage, peu importe. Et ben toi, tu vas soit pouvoir dire, OK, je prends et je paye 20% de commission. Soit tu dis, alors, je m'abonne, mais c'est un abonnement soit trimestriel ou annuel maintenant. Okay. Et l'abonnement revient à 40 euros par trimestre ou 100 euros par an. Et là, les gens font soit le choix de se dire, tiens, mathématiquement, ça revient moins cher que la commission, ou justement je me projette sur le long terme parce qu'il ne va pas revenir qu'une fois et ça va devenir plus intéressant, quoi.
Et là, c'est bon, vous l'avez trouvé, votre business model ?
Ouais, ouais, bon,
c'est ça.
Alors, oui, mais on a encore, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, fait des A/B tests sur le pricing. Okay. Le pricing, c'est un élément qui est très sous-estimé dans le business, je pense, parce qu'on se dit, OK, on a testé un truc et puis c'est dangereux si on change le prix, les utilisateurs vont risquer d'être froissés, etc. Et à un moment, c'est, on peut changer le taux de conversion de tout en haut du funnel et essayer de l'augmenter de 5%. Mais à la fin, ce qui compte, c'est si ton pricing augmente de 20%, ouais, c'est ton chiffre d'affaires qui est impacté directement, quoi. Donc,
Quel conseil alors tu donnerais pour celui qui veut se lancer dans ce type de business-là et qui doit obligatoirement avoir des gens à gauche et des gens à droite ? Il doit commencer par qui, par quoi ? Il doit attaquer les deux communautés en même temps ? Il doit peut-être.
Non, moi je dirais qu'il faut atteindre une masse critique d'un côté. Souvent, je dirais l'offre. C'est généralement dans les business auxquels je pense, comme ça, c'est souvent l'offre. Tu dois atteindre ta masse critique et puis après, tu peux commencer à aller chercher ta demande. Mais il faut s'assurer qu'après, tu aies ta demande parce que sinon, ton offre, elle dégage. Et donc, si c'est le début, etc., ils sont conscients, l'offre, que ça va arriver petit à petit. Mais il faut qu'après ils soient contents du service parce que sinon ils vont pas rester.
Un vrai parcours d'entrepreneur, une vraie masterclass. Et je sais aussi que vous n'hésitez pas aussi à aller dans les écoles, aussi à partager aussi votre aventure. Vous êtes aussi un petit réseau aussi, hein. Je vois pas mal de photos aussi circuler d'entrepreneurs. Je te vois parfois avec Emna aussi, de Casidomi. Emna aussi qui partage beaucoup son aventure aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je pense qu'un entrepreneur, dis-moi si je me trompe, de base, il est assez généreux. Je pense que si quelqu'un te contacte, envoie un petit message et qu'il est sérieux et que tu sens qu'il est passionné, il te pose une question, tu vas lui répondre aussi.
Ouais, ouais, Alors, je ne sais pas si c'est la nature entrepreneuriale ou la nature belge, mais moi, je me souviens, je fais partie du réseau Entreprendre de Bruxelles, qui est un super réseau que je recommande à 1000%. À l'époque, c'était Grégoire Destrée et Jean-Guillaume Strassen qui étaient les présidents du réseau. C'est globalement, on peut dire, ils ont inventé Internet en Belgique, quoi, ces gens-là, quoi. Ouais. Et donc, moi, je regardais ça, je me disais, mais jamais on va pouvoir parler à ces gens-là, quoi.
Ouais.
Et puis, après 3 mois, c'est eux qui m'envoient un mail en disant, tiens, tu connais pas une boîte qui fait ça ? J'étais là, genre, what ? Et en fait, on leur demandait un conseil. Ils ont dit, bah, évidemment, viens, on en discute. Et c'est fou parce que c'est des gens qui ont des parcours incroyables. Alors, la nature du réseau Entreprendre, parce que je prends celui-là en question, c'est dans la réciprocité. Et donc, moi, j'ai été membre du réseau Entreprendre, enfin, lauréat du réseau Entreprendre pendant plusieurs années. Maintenant, je suis membre, ça veut dire que tu peux accompagner des projets aussi.
Ouais.
Et je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat, je dirais, belge, parce que je connais pas le reste, mais c'est génial à voir.
Et donc,
quoi,
le message à faire passer, c'est que vous ne devez pas hésiter à envoyer un petit message. Au pire, il ne vous répond pas. Mais très souvent, vous allez voir, il va se passer des trucs un peu magiques. L'avenir de RingTwice, maintenant, les prochains défis, c'est quoi ?
Oh, alors il y en a quelques-uns, hein, mais je dirais que les principaux, c'est y en a un très gros là maintenant qui est l'internationalisation.
Ouais.
Donc
avec une bonne nouvelle qu'on peut annoncer.
Ouais, on vient de reprendre là il y a quelques jours, on l'a pas encore vraiment annoncé mais on l'annonce maintenant du coup, on vient de reprendre un concurrent français.
Ouais.
Qui a vraiment un business similaire, enfin exactement le même que notre.
Avec aussi une très belle communauté déjà active.
Ouais, ils ont aussi 600 000 personnes, donc ça double du jour au lendemain, ça double ton audience, ils ont pas pas la même taille que nous aujourd'hui, mais c'est quand même significatif. Ouais. Et donc, ça augmente drastiquement ton impact que tu as. Pour moi, c'est quelque chose qui est un driver de motivation aussi. C'est de dire, je travaille pour une bonne chose et pour me dire, j'ai un impact positif sur l'utilisateur à la fin. Et ça veut dire que maintenant, il est plus limité au marché belge, mais il est aussi sur l'ensemble du marché français. Et ouais, ça va être c'est un sacré challenge, mais c'est génial parce qu'on creuse dans le code, dans leur manière de fonctionner et tout. Et c'est le bazar, hein, on va le dire, hein, mais c'est un beau bazar. Quoi.
Ouais, et puis après l'expérience, tu l'as déjà vécu il y a quelques années qui était malheureuse, entre guillemets, pour X raisons. Et là, maintenant, tu reviens aussi sur le marché français avec, avec une expérience en plus aussi. Donc, ça va bien se passer.
Ouais, ouais, je me tracasse vraiment
super
pas.
Super équipe c'est... en plus, ouais, t'es bien entouré. Il y a trois fondateurs de ouf, des investisseurs, j'imagine aussi, qui aujourd'hui sont là et bien là pour t'accompagner. Une belle communauté aussi. Parce que, je le dis, c'est pas pour te saucer, mais vous faites partie aussi des fiertés, finalement, entrepreneuriales belges, bruxelloises aussi. Aujourd'hui, vous êtes à Bicentrale, c'est ça?
Ouais.
Un endroit aussi qu'on invite les auditeurs à aller checker.
Parce que ah,
c'est une vraie niche d'entrepreneurs motivés, inspirants. Et parfois, il faut aussi sortir de ces quatre murs et aller à la rencontre de ce genre d'espace pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui connaissent des difficultés, des réussites. Et puis, on partage tout ça. Et puis, ensemble, on se fait grandir, quoi.
Exactement.
Bon, John, bien dit. Le meilleur pour Ink Twice et pour toute ton équipe. Et puis, à très bientôt.
Allez, à bientôt alors. Hein. Je reviendrai pour te donner des nouvelles,
oui,
de la France.
De toute façon, tous les 2-3 ans, tu reviens. Allez. On fait une petite mise à jour, quoi.
Alors, ce ne sera plus la France, ce sera les autres pays.
T'étais sur Energy à l'époque. Voilà. Je t'ai pas fait venir sur Fun Radio, mais t'es sur Kayef aujourd'hui, c'est le plus important. À bientôt, John. Ciao, ciao.
À bientôt.